l'antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
Lorsque je vous dis que parler, échanger, partager nous mène vers l'apprentissage, nous mène vers la connaissance des uns et des autres et sur cette connaissance de nos droits, cette résilience aussi dont on parle souvent et puis cette main tendue ce soir par Marie-Christine pour vous éclairer, vous toutes et vous tous qui êtes aussi dans le noir, dans la souffrance, quand les enfants sont au milieu et sont souvent utilisés pour mettre la pression, pour manipuler. Donc j'espère que ces conseils précieux ne seront pas tombés dans des oreilles sourdes. Nous accueillons maintenant Bernadette au 39-21. Bonsoir Bernadette.
Bonsoir.
Comment allez-vous Bernadette ?
Ça va très bien.
Ça va ?
Merci.
Mais je vous
oui,
en prie.
Oui, oui, tout à fait. Mais voilà, je voulais vous remercier pour l'écoute. L'écoute, c'est quelque chose qui n'est pas évident, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose que j'ai pratiqué en mon temps quand j'étais assistante sociale.
Oui.
Et voilà, c'est pas une qualité, c'est quelque chose qui s'apprend.
Mmh. Je suis voilà. Assez d'accord avec vous.
Voilà.
Alors,
je vous remercie pour vos émissions parce que, bon, je suis pas fan d'Europe 1, mais étant donné que France Inter avait fait la grève, je suis tombée sur vous et je vous connaissais sur vos émissions
de France 2.
Dans les yeux de. Oui, voilà, dans oui. Les yeux d'Olivier. Et bon, j'ai beaucoup apprécié votre écoute.
Je vous remercie beaucoup. Et ça revient mi-avril, j'en profite pour vous le dire.
D'accord, ok.
Alors,
bon, je vous garderai.
Et puis, je me réjouis de voir que vous êtes restée sur Europe 1 depuis.
Non. Désolée.
Bon, mais bon, vous êtes restée au moins vous y êtes
non.
Là ce soir.
Comment ?
Je dis, là, en tout cas, à cette heure-là, vous y êtes. Et c'est
oui.
Déjà ça.
Bon, en général, je dors à ce temps-ci. Hein.
Bon, très bien. Enfin,
voilà.
En tout cas, je suis très flattée que vous ayez fait un petit détour par chez nous.
Eh ben voilà, ça fait plaisir parce qu'il n'y a pas tellement d'émissions. J'ai de la nostalgie de Macha. Je suis assez âgée pour avoir connu Macha.
Macha Béranger, oui.
Oui, et j'ai de la nostalgie de ma chambre.
Alors, je vais vous faire une confidence. Vous voyez, Bernadette, c'est que j'ai vraiment... j'étais très jeune quand j'écoutais Macha Béranger très souvent.
Oui.
Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, mais beaucoup inspiré de sentiments quand je l'écoutais, ainsi que les gens qui l'appelaient, bien évidemment. Et je me rappelle avoir beaucoup voyagé tout jeune, humainement, vous voyez, parce qu'il se passait beaucoup de choses aussi chez Macha. En fait, elle avait,
une
immense capacité d'écoute. Alors, vous m'appeliez pourquoi, Bernadette ?
Ben voilà, je ne sais plus, parce qu'avec le témoignage d'avant, c'est presque banal ce que je vais vous
mais
dire.
Non, mais non, ne dites pas ça. Chaque histoire a de la valeur.
Non, mais c'est parce que voilà, je suis mère d'un schizophrène en fait.
Oui.
Et bon, c'est un schizophrène tardif. C'est-à-dire que il avait maintenant il a 37 ans,
oui.
Donc il avait 33 quand il a été diagnostiqué schizophrène. Ceci dit, avant. Il a jamais travaillé.
Oui.
Ceci dit, avant, il avait un certain nombre
de problèmes.
Je peux pas de problèmes qui font que je l'avais traîné au CMP au moins 4 ans avant.
Oui. De quel type de pathologie, en tout cas de problématique, vous affrontiez avec votre fils? Quand vous dites que
avant le diagnostic, je me confrontais à une envie de pas vivre.
D'accord.
L'étincelle qui vous empêche de vous réaliser, de faire quoi que ce soit dans la vie. Et je ne savais pas pourquoi, en fait. J'ignorais pourquoi il était comme ça. Je pensais qu'il était asocial, donc je l'avais traîné au CMP pour... voilà, alors le CMP, déjà, c'est très difficile d'avoir un rendez-vous.
Oui.
Donc, bon, je l'avais traîné quand même au CMP. Il avait même été enfin, il y avait un atelier cuisine, des choses comme ça. Et puis, en fait, comme il avait aucune pathologie, il était au RSA, en fait.
Il avait une très grande mélancolie, vous voulez dire ?
C'est pire que ça. Il se lève pour se coucher. En gros, c'était ça.
C'est-à-dire, il se levait très tard. Il ne faisait rien.
Oui, peu importe l'heure à laquelle il se levait.
Oui.
Mais en fait, il traînait son désœuvrement. Je ne sais pas comment vous expliquer ce que c'était. Il traînait son désœuvrement. Je ne sais pas comment vous le dire.
Non, je vais essayer de.
Quand on est parent, on s'arrache les cheveux.
Oui.
On s'arrache les cheveux parce que c'est incompréhensible. On ne sait pas pourquoi et on ne sait pas quoi faire.
Mais à l'école, par exemple, à l'école, ça se passait comment lorsqu'il avait, je ne sais pas, 11 ans, 12 ans? Est-ce que vous avez vu ça arriver ou est-ce qu'il a toujours été comme ça?
Ah, tout petit, il avait des signes de... Pour moi, ce qui était des signes d'autisme,
oui,
sans pouvoir mettre... adapté sur son comportement, quelque chose de... Enfin, c'était pas évident, quoi.
Oui, c'était
des gestes répétitifs, c'était des... Il a toujours été problématique, en fait. Mais c'était des... Il adorait répéter des sons. Il adorait... lui, ça le calmait, moi, ça m'énervait, en fait, quand il était petit. Notamment un camion de pompiers que je ne pouvais plus supporter. Parce que ce camion de pompiers, c'était un camion à friction. Il adorait ce camion. Ils étaient des heures et des heures avec ce camion. Et moi, c'était des heures et des heures à plus supporter. Quoi.
Ouais, à souffrir.
Oui, à souffrir.
Et en fait, il avait quel âge lorsqu'il avait ce camion de pompiers?
Oh, il devait avoir 3-4 ans.
Ouais.
Mais je me suis dit, avant, c'était, je sais pas, 20, 30 colères par jour. C'était des bêtises à finir. Du genre, je mets du sirop dans l'eau des poissons rouges.
Oui.
Résultat, on essayait de sauver les poissons rouges comme on pouvait.
Ouais.
Parce que, voilà, on changeait l'eau des poissons rouges. C'était donner à manger au magnétoscope. C'était ouvrir un paquet de farine sur sa tête.
Ouais.
Se casser un paquet de farine sur sa tête. Mais c'était 20 bêtises par jour et 20 colères.
20 bêtises par jour et 20 colères. Et lorsque il est devenu adolescent, en fait, est-ce que ça a continué, ça? Ou est-ce qu'il a fait une scolarité normale?
J'ai eu une période de ma vie où je ne l'ai pas eu.
C'est-à-dire
à ma charge. C'est-à-dire que le divorce a fait que je n'avais pas mon fils à ma charge.
D'accord, donc vous ne l'aviez que...
Donc, je ne savais pas. Je ne savais pas ce qui se passait et s'il ne m'appelait pas, je ne savais pas ce qui se passait. Et il ne m'appelait jamais, en fait.
D'accord, donc vous êtes resté un long moment sans le voir?
Voilà.
Combien d'années?
Alors,
en fait,
quand il faisait des choses bien... Il m'appelait quand il faisait des choses qu'il considérait, enfin que j'étais des mois et des mois sans avoir de nouvelles de lui, en fait.
D'accord. Et il vous appelait comme si de rien n'était, comme si il vous avait vu hier?
Oui, quand il m'appelait, c'était comme il était très fier de lui. Donc, quand il avait quelque chose à me dire de positif, il m'appelait. Mais quand il n'y avait rien de positif, il ne m'appelait pas, quoi. En gros, c'était ça.
Et comment se fait-il que vous avez il est à nouveau dans votre vie, en fait, il a...
En fait, c'est parce que son père ne le supportait plus.
Oui.
En fait, c'est parce que à un moment donné de sa vie, son père ne s'occupe. En fait, le père, à partir du moment où il n'était plus sous ma responsabilité, j'ai quatre enfants. Hein. À partir du moment où mes quatre enfants avaient été, enfin, à part ma dernière, avaient été confiés à leur père.
Oui.
Après un jugement de divorce parce que j'étais très malade. En fait, voilà, c'est bon, il s'est retrouvé tout seul dans une maison familiale.
Oui.
Et en fait, il a été abusé par quelqu'un.
D'accord.
Abusé, je pense pas sexuellement, parce que je sais pas tous les détails, mais je pense pas sexuellement, mais au moins financièrement. C'est-à-dire que la personne qui l'avait abusé, qui vivait chez, enfin, qui venait le voir chez lui et qui le rackettait plus ou moins, et de fait, il ne mangeait plus, il avait maigri 10 kilos, et déjà, il n'était pas bien épais. Mais là, et son père enfin s'est rendu compte que il était en danger et il lui a conseillé de venir me rejoindre. Moi, je suis dans très sud, je suis au Pays Basque en fait.
Vous êtes au Pays Basque, d'accord.
Voilà, et il est venu de la région parisienne pour venir me rejoindre au Pays Basque. Et donc voilà, et ça fait 10 ans que je l'ai récupéré. Et il n'était pas diagnostiqué schizophrène à l'époque. Et donc, je pensais qu'il y avait un problème. Mais voilà, il a été diagnostiqué schizophrène qu'à partir du moment où ben, il a eu un délire, en fait.
Il a eu un délire de quel type, dites-moi.
Ah ben, c'est un délire. Alors bon, il était très proche de l'évangélisme,
Oui.
de mouvements évangélistes, et donc il a eu un délire mystique. Mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite parce que, étant donné qu'il était très proche de cette mouvance, les premiers signes n'ont pas été évidents. J'ai mis 15 jours. En fait, je suis restée 15 jours. 15 jours, pas forcément parce que il a fait. Parce que j'ai mis une semaine et demie à me rendre compte qu'il était dans un vrai délire parce qu'il dormait plus, il mangeait plus, il partait, il se parlait tout seul. J'ai mis quand même une semaine et demie à me rendre compte que mon fils était en train de. d'être dans un délire. Et ensuite, j'ai appelé SAMU et SAMU m'a dit, mais désolé, madame, on n'a personne à vous envoyer. Et donc, j'ai attendu un week-end entier. J'ai fait appel à mon médecin traitant qui, lui, a réussi à faire appel au SAMU pour qu'il soit hospitalisé. Et j'étais obligée à ce moment-là de signer une hospitalisation demandée par un tiers, une HTT, qui a été extrêmement douloureuse et il m'en a voulu quelques jours, en fait, avant de se rendre compte qu'effectivement, j'avais entièrement raison. Voilà.
Où est-ce que vous en êtes là, au moment où on se parle? Où est-il là?
Bah, il est chez moi. Il a l'intention de se prendre un appartement. Donc, on fait tout pour qu'il puisse réussir à cette chose. Le fait qu'il déménage, moi, j'ai pas une retraite suffisante. pour payer, parce qu'il est mon colocataire, en fait. Donc, je n'aurai pas une retraite suffisante pour payer mon appartement.
Oui.
Donc, si il déménage, je suis obligée d'envisager de partir de chez moi. Et donc, où j'en suis? J'en suis que, en tant qu'ancienne assistante sociale, j'ai fait les... J'ai remué ciel et terre pour avoir...
De l'aide.
Ah bah, plus que de l'aide même.
Bah...
Et je suis coincée par cette même aide. Qui ne m'aide pas moi, mais qui est censée... C'est-à-dire que j'ai demandé la CPH de la MDPH. Donc la CPH, c'est la PCH, c'est la prestation compensatoire pour le handicap. De la MDPH, c'est la
maison du handicap, oui, qui peut vous aider grandement.
Voilà, du handicap départemental.
Oui.
Voilà.
Et vous n'avez pas de réponse.
Il a été au-delà de mon espérance.
Ah bon?
C'est-à-dire, je suis désolée, je vous ai coupé là.
Non, 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 je vous en prie, allez-y.
Mais qui, mon grand étonnement, nous a octroyé 2000 euros par mois.
Oui, mais vous savez que généralement, la MDPH aide et énormément.
Donc, 106 heures par mois. Le seul problème, c'est que. Ils ne m'ont pas envoyé des gens. Enfin, ils m'ont envoyé une entreprise,
oui,
qui fait du sucre sur le dos des handicapés.
Ah, d'accord. Mais vous l'avez signalé, ça, Bernadette?
Ben, j'aimerais bien, mais je ne suis pas habilitée pour le faire. Soit c'est mon fils, soit c'est... sa future curatrice, parce que j'ai demandé une curatelle.
Alors, méfiez-vous sur la curatelle, hein. Vraiment. Demandez à ses frères et sœurs, en tout cas à vos enfants, si ils ne veulent pas, dans un premier temps, prendre les choses en main, hein, pour vous soulager un
peu.
Non, ils ne veulent pas.
Alors là, moi, je vais vous dire, j'ai eu la curatelle de ma mère.
Oui.
Et j'ai vite, au bout de... Enfin, j'ai fait le plus gros du boulot. J'ai demandé et j'ai la chance d'avoir une voisine qui est curatrice, mais en libérale.
Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, donc.
Ah ouais, super bien.
Ah bon. D'accord.
Et du coup, on attend, c'est le 12 février, parce que jusqu'à présent, je n'ai pas demandé la curatelle pour mon fils, parce que il est plutôt pas grave. Je veux dire un truc, j'ai du mal à lui demander la colocation. Je me suis plutôt mis dans le rouge parce que voilà, c'est pas quelqu'un qui dépense énormément. Et voilà. Et mais par contre, par rapport à son projet d'installation dans un appartement en dehors de moi.
Oui.
Voilà, c'est quelque chose qui est indispensable, la curatelle. Donc, ma voisine curatrice, oui.
C'est sa volonté à lui, votre
fils? Ah
oui,
tout à fait. J'ai rien fait derrière son dos. C'est-à-dire que j'ai demandé à ma voisine qui s'est occupée de la curatelle de ma mère de lui expliquer les tenants et les aboutissants de cette... Mais il est hors de question qu'il aille ailleurs sans ça, quoi. Et bon, lui, il a compris les enjeux de cette démarche. C'est-à-dire qu'il a compris que quand il sera tout seul, ben voilà, il faudra
qu'il s'occupe de ses courses.
Voilà.
De...
Non, mais c'est surtout pour lui, je pense que c'est...
Mais
j'ai plus à m'occuper de savoir ce que je peux dépenser ou pas dépenser. Mmh. Pour lui, c'est un souci en moins, quoi.
Oui, c'est un souci en moins. Puis j'ai envie de vous dire que, malgré tout, il va s'assumer un peu. Vous voyez, ça ne peut que le faire grandir, s'améliorer et puis mener sa vie comme il l'entend. Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, mais je... si vous voulez ce que j'en pense. Moi, en tant que mère, j'en pense que c'est une mauvaise idée parce qu'on a déjà eu une première expérience dans ma cour. Il y avait un appartement libre.
Oui.
Et je l'ai convaincu de le louer.
Oui.
La propriétaire, c'est la même propriétaire que moi.
D'accord.
Donc la propriétaire était d'accord. Elle lui a loué. Et en fait, au bout d'une semaine, ça a été un échec cuisant.
Alors pourquoi ça a été un échec? Parce qu'il ne voulait pas rester dedans? Parce que...
Non, moi je pense qu'il était trop proche de moi en fait.
Il était trop proche de vous. C'est-à-dire qu'il était tout le temps fourré chez vous en fait.
Ouais.
Ben oui.
Et c'est parce qu'il dormait chez moi. À un moment donné, cet appartement, ma fille et le copain de ma fille qui était aussi chez moi. Et du coup, on a rocké. C'est-à-dire qu'on a mis le contrat de location au nom de ma fille et de son copain, et que voilà, ça s'est fait comme ça.
Donc si j'ai bien saisi, le 12 février, vous allez avoir l'attribution d'une curatrice.
J'espère que ce sera dans mon sens parce que, a priori, le juge a décidé que ce serait la sauvegarde de l'enfant seulement. On n'est pas d'accord là-dessus. On espère que ce sera la curatrice qui s'est occupée de ma mère et qui a accepté de s'occuper de mon fils.
D'accord. Et pourquoi le juge tend plutôt de l'autre côté pour la protection de l'enfance?
Ben, on n'en sait rien. Donc, j'ai fait un courrier dans le sens où j'ai dit combien on était attachés au fait que ce soit la mandataire. Qui s'est occupée de ma mère, qui s'occupe de mon fils. Elle est totalement d'accord. Elle l'a aidé à faire ça, la démarche de curatelle. Pas de protection judiciaire, parce que c'est pas une curatelle, on ne sait pas encore ce que ça va être. Mm-hmm. Mais de protection judiciaire.
Bon, mais en tout cas, il y a une grande confiance entre cette dame et vous, en plus, puisqu'il y a eu un historique.
Ah oui, tout à fait. Mais on n'est pas sûr, c'est le juge qui va en décider, c'est pas moi.
Oui, j'ai bien compris, oui. Mais donc, vos enfants, vous êtes quand même à rédiger tous ces courriers au juge, ou c'est vous qui faites toute seule, d'accord?
Ah non, j'ai toujours tout fait toute seule, parce que en même temps que mon fils est tombé malade, j'ai eu ma mère qui a été, dont on s'est rendu compte que... Voilà, il y avait quelque chose qui n'allait pas.
Oui.
Et donc, en même temps que mon fils est tombé malade, j'étais obligée de m'occuper de
votre maman.
De ma mère qui pouvait plus rester toute seule. Donc, j'ai trouvé une place en foyer logement. Enfin, c'est pas EHPAD, hein, c'est... un appartement dans une maison de retraite pour la protéger. J'ai été à un moment donné sa curatelle. Je me suis rendu compte que sur ses comptes, j'avais un de mes frères qui l'avait largement délesté.
Oui, d'accord. D'accord.
Et voilà. Et après, je me suis occupée de tout. En fait, elle est partie très vite, ma mère, parce que ce qui semblait être un Alzheimer, en fait, était une tumeur au cerveau. Une métastase, un cancer primaire au poumon. Et quand je disais à tout le monde qu'elle avait des hallucinations, personne ne me croyait. Et j'ai vécu 200 de cauchemars entre mon fils et ma mère.
Ah
j'ai
bon?
Vécu. Je passais d'un hôpital à l'autre. Parce que mon fils, il était hospitalisé pour son problème de schizophrénie.
Mmh.
Et ma mère, elle était hospitalisée pour ses soucis de fin de vie. Donc, je suis vraiment passée d'un hôpital à l'autre, en fait. Et pendant 2 ans, elle n'a pas eu droit à l'appât parce que c'est une infirmière qui vient pour voir si tout va bien, pour calculer comment pourrait être dispensé de l'appât. Ma mère, dans sa dernière année de vie, n'a pas eu le droit à l'appât. Elle était suffisamment indépendante. C'est ce qu'elle a dit à l'infirmière.
D'accord.
Et c'est faux. En fait, le problème, c'est l'administration. Il y a 2 problèmes que je voudrais aborder.
Dites-moi.
C'est le premier problème, c'est la schizophrénie dans la société. Personne n'imagine qu'il y a 1% de la population qui est schizophrène. Et pourtant, statistiquement, il y a 1% de la population qui est schizophrène. Quand mon fils est tombé et a été diagnostiqué schizophrène, peu de mois après, enfin quelques semaines après, j'ai eu une de mes nièces qui est venue me voir. Et il faut dire que juste avant, il y avait eu le meurtre ici en campagne. C'est vraiment bon, ça n'existe pas quoi. Mais il y a eu le meurtre d'une jeune femme.
Oui, mais c'est toujours comme ça.
Voilà. Et en fait, cette jeune femme, c'était la copine de promotion à l'école d'infirmière de son fils à elle. Donc, un de mes neveux, de mes petits-neveux, mais de son fils à elle. Donc, ma nièce, elle m'a dit carrément, Guillaume, il faut que tu t'en débarrasses, quoi.
Mais Bernadette, on a encore une minute, hein, je tiens à vous le dire, donc juste pour vous prévenir, parce que le temps passe. Et la deuxième chose dont vous vouliez parler concernant les schizophrènes, c'est quoi?
Les schizophrènes, c'est ce qui vous est proposé, je suis désolée, Olivier, mais ce qui est proposé comme solution, donc les 2000 euros de
la MDPH,
j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus.
D'accord.
Allô?
Oui, oui, je suis là. Oui. Vous avez beaucoup à dire là-dessus parce que j'ai compris que ces 2000 euros, ils étaient presque mal dépensés avec une entreprise qui se sert. Ce que je vous propose, Bernadette, c'est de vous rappeler. Vous êtes plutôt joignable le soir, comme ça, Natacha ou Florian peuvent vous appeler, que nous puissions reparler de cela parce que ça me semble très important que nous l'évoquions, ce que vous venez de dire par rapport à cet argent que la MDPH vous alloue et qu'il est bien mal employé par ces entreprises. Vous voulez bien ?
Oui, tout
D'accord.
à fait. Oui.
Alors, je me permettrai de vous rappeler peut-être jeudi ou alors lundi prochain, d'accord ?
Jeudi ou lundi prochain,
ouais,
ok.
Ouais. Je vous embrasse et on se parle bientôt.
Je me couche à 9h. Hein.
D'accord, mais alors on vous appellera avant pour vous prévenir, d'accord ? Je vous embrasse, Bernadette. On vous appellera et on vous préviendra bien à l'avance pour que vous restiez éveillée comme ce soir.